Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Collaboration entre universités et entreprises pour faire émerger des projets innovants. Ce sera le thème de notre émission de ce jour, mardi 22 octobre 2024. Et pour en parler avec moi dans le studio, Isabelle Hofkens. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre venue chez IDFM Radio. Directrice adjointe de CY Transfer, CY Cergy Paris Université, avec nous pour nous présenter les assises de l'innovation organisées par CY Transfer le 28 novembre 2024 à l'espace Numix de Sarcelles, mais pas que. Vous nous parlerez aussi de EdTech Lab et puis de salons à venir. Merci pour votre venue, Isabelle. À vos côtés, Christelle Ventura. Bonjour, Christelle.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir autour de ce plateau. Directrice adjointe en charge de la valorisation des sciences humaines et sociales pour CY Transfer, un domaine incontournable dans le programme Innovation et Société et dont vous allez nous décrypter tout le bien fondé. Et à vos côtés, Greg Salhunt. Bonjour Greg.
Bonjour Jacqueline.
Merci infiniment pour votre présence dans cette émission. Président du Poulpe français, un groupe spécialisé dans la communication sur un point de vente 360 dont le siège est à Argenteuil et dont nous avons hâte dans quelques instants d'en savoir plus, mais aussi peut-être d'explorer quelles synergies pourraient se développer entre votre entreprise et CY Transfer. Bienvenue à tous les trois dans l'économie en direct sur IDFM Radio 98, une émission à retrouver en podcast sur le portail idfm98.fr.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio consacrée à CY Transfer et au Poulpe français avec moi dans le studio bien présent. Alors Isabelle Hofkens, directrice adjointe de CY Transfer, rappelez-nous peut-être en quelques mots la vocation de ce département de CYU.
Alors CY Transfer, c'est une entité de l'université qui a été créée pour faire le lien entre les laboratoires et les enseignants-chercheurs et le monde socio-économique au sens large, que ce soit les entreprises, les associations ou les collectivités territoriales, puisque l'université comporte 27 laboratoires, dont la moitié en sciences humaines et sociales. Donc du coup, effectivement, on a des enseignants-chercheurs qui travaillent sur des technos, sur des méthodos, sur des simulateurs, et donc l'objectif de CY Transfer, c'est de faire en sorte que ça puisse trouver écho auprès du monde socio-économique et que ça intéresse des entreprises d'acquérir ces technos et de continuer à les développer avec nous pour pouvoir les utiliser dans leurs propres activités.
Et alors, une de vos missions, c'est aussi de suivre EdTech Lab, dont vous êtes vraiment pour lequel vous êtes vraiment impliqué.
Oui, alors du coup, on a mis en place un programme d'accompagnement de start-up de la filière EdTech, outils numériques à destination du monde éducatif. Et donc, on accueille deux sessions par an d'une dizaine de start-up. Pas encore créés ou tout jeunement créés, qui ont besoin de finir de développer leurs solutions numériques et surtout de faire de la mesure d'impact. La filière EdTech, c'est une filière qui est pas facile à pénétrer. Il y a des conditions technologiques pour pouvoir faire que l'outil soit déployable dans un établissement public avec des enfants. Donc il y a certains labels à obtenir. Et puis on est sur du marché public, donc c'est long. Il faut répondre à des marchés, à des appels d'offres. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe pas du tout de la partie business, on s'occupe tout de la partie tech et de la partie mesure d'impact. L'objectif, c'est effectivement, en 12 semaines, de les faire s'interroger sur à quoi sert leur outil, comment il va pouvoir être utilisé dans une classe, par un enseignant ou par des élèves. Et on fait ça sur tous les niveaux, que ce soit primaire, secondaire, enseignement supérieur, formation professionnelle.
avec toujours en arrière-pensée de créer un lien entre le monde académique et le secteur privé.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que 12 semaines, ça nous permet de repérer sur les 10 startups qu'on accompagne dans ces sessions. En général, il y en a 2-3 qui vont trouver de l'écho auprès de nos enseignants-chercheurs, soit en sciences de l'éducation, soit en intelligence artificielle. Et le travail va continuer au-delà de ces 12 semaines. Et donc, on va co-développer la solution numérique et on va les aider à se positionner sur le marché. Et quand les entreprises sont pas encore créées, on accompagne à la création d'entreprises.
Alors, comment définissez-vous au départ les objectifs stratégiques de ces partenariats ?
Alors, il y a un appel à candidature. En fait, donc les futures entreprises ou jeunes entreprises postulent au programme CEO Tech Labs. On évalue les dossiers et on prend pas forcément les plus prometteurs ou les meilleurs. On prend ceux auxquels on peut apporter quelque chose, c'est-à-dire un besoin technologique ou un besoin d'aide dans des domaines où nous on est spécialiste.
Vous arrivez à le repérer facilement?
Oui, ça on arrive à le repérer assez facilement. On est à la 4e session. On connaît maintenant les enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans le programme et quels sont leurs domaines de compétences et où ça s'arrête. On augmente le pool d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas les compétences en interne, on peut aller les chercher chez nos partenaires, par exemple de l'USPN ou dans d'autres laboratoires. Mais oui, on arrive bien à circonscrire les choses et on a des jolies histoires à raconter puisque ça fait la 4e session. Donc sur les 3 précédentes sessions, il y a des histoires qui ont continué. Et donc du coup sur les trois sessions précédentes, on a 5 projets qu'on a continué à accompagner hors programme et dans lesquels il y a soit de la prise de participation au capital de l'université, soit un retour financier sur les ventes.
Bien sûr.
Du produit qui vont être faits. Et donc voilà, ça sert à alimenter la roue parce que ça nous permet nous de financer d'autres projets qui rentrent dans les sessions d'accompagnement.
Alors, est-ce qu'il est parce que ça nécessite d'avoir une collaboration efficace entre des équipes qui ont des cultures différentes, l'académie, le côté académique et puis le côté entreprise. Comment vous arrivez à garantir ces collaborations?
Alors on la garantit pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de feeling et de matching. Il faut que la mayonnaise elle prenne bien entre l'enseignant-chercheur ou les enseignants-chercheurs et l'entrepreneur. Mais quand ça fonctionne bien. C'est-à-dire que l'entrepreneur est généralement pas issu du monde académique, donc il est friand d'avoir un appui techno et de pouvoir faire valider certaines options qu'il a prises ou de les faire modifier. Et nos enseignants-chercheurs sont friands de terrain d'expérimentation pour pouvoir récupérer un petit peu de données, pour pouvoir faire avancer leur propre recherche. Et donc c'est en fait un cercle vertueux qui s'enclenche.
Qui marche bien. Je m'adresse à Greg Salonte. Lors de votre intervention là pour
la JET.
Non, pas la JET, parce que j'ai entendu aussi votre intervention pour le mois de l'égalité des chances. Et vous nous aviez dit que vous étiez aussi friand d'être comme ça en contact avec le monde académique. Donc oui. Vous retrouvez ce que dit Isabelle.
Je trouve ça génial. Déjà, faut savoir que encore une fois, tous les jeunes aujourd'hui qui sont à l'école, les scolaires ou les jeunes qui sont en train de faire des études, à un moment ou à un autre, vont devenir ou entrepreneurs ou salariés. Et donc, je trouve ça super cool d'avoir la possibilité de créer ce pont et de pouvoir soutenir des projets qui sont intéressants. Moi, j'avais une question.
Oui,
dans votre pool de sélection, quand vous sélectionnez un entrepreneur, je pense qu'on sélectionne un projet, mais aussi un entrepreneur, ce qu'on peut y apporter, et la personne, en fait, le projet est souvent l'ADN de l'entrepreneur. Est-ce que vous avez des entrepreneurs dans votre pool à votre université qui choisit avec vous, ou c'est que le monde académique?
Non, en fait, on a été labellisé Pôle Université d'Innovation. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a un écosystème qui se met en place. Et on a des entreprises valdoisiennes qui sont des partenaires très proches. Et on a des représentants du MEDEF, de la CPME, du CEVO. Et donc, en fait, en fonction de nos interrogations, de nos besoins, on les interroge et on leur transmet les dossiers pour qu'ils nous donnent leur avis.
Okay.
Pareil pour on fait ça aussi, on fonctionne bien aussi avec le réseau Entreprendre ou avec Initiative 95. Donc, nous, on fait partie de leur comité de sélection. On les invite à nos comités comité de sélection.
Ok, impeccable. Je trouvais ça pas mal qu'il y ait quand même un entrepreneur qui regarde, et voilà, c'est toujours la viabilité d'un projet.
Complètement.
Bon, pour revenir sur ce que vous me disiez, Jacqueline, moi pour ma part, je fais pas mal de mentorat.
Oui.
Je fais partie du comité local école entreprise d'Argenteuil, donc
le clé,
donc oui. J'essaye de faire en sorte de créer du lien entre les collèges, les lycées, les profs, les élèves, les entreprises et les parents. Et parfois c'est pas toujours ultra facile.
C'est une équation un peu compliquée.
Il faut pas les laisser tous dans la même pièce.
Oui.
Voilà,
d'accord.
Sans ça c'est problématique. mais le but étant de faire en sorte que le spirit, oui, ou la culture de l'entreprise pour les jeunes d'aujourd'hui soit beaucoup plus facile à atteindre que moi à mon époque
pour
où
nous,
je, voilà
bien sûr.
Et j'ai arrêté l'école en troisième. J'avais 15 ans et demi, et donc j'ai été propulsé dans le monde de dans le monde du travail,
du salariat,
voilà,
oui.
Immédiatement, et mon premier job c'était Post-Afrique chez McDo, et j'en garde une expérience assez ambigu, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais en fait j'avais compris par le biais de mes parents qui me disaient finalement il y a plus d'argent de poche, donc tu vas travailler maintenant que t'es plus à l'école, on finance plus. Je fais ça fonctionne comme ça, et donc il y a un ascenseur émotionnel qui se crée, et en fait on se rend compte qu'on est obligé, vu qu'on est dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, il va falloir aller chercher de l'argent pour pouvoir vivre, manger, boire, se loger. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas cette conscience-là, et il faut arriver à leur montrer et à leur faire toucher du doigt ce que c'est qu'une entreprise, comment on travaille, combien de temps on travaille, qu'on peut pas travailler avec et TikTok et Snapchat et Instagram et Facebook, peut-être pas Facebook pour les jeunes maintenant, mais en même temps, et j'en oublie sûrement, et donc en fait le monde du travail va pas spécifiquement évoluer, il va rester toujours tel qu'il était il y a 100, 200, 300 ans. Voilà, je trouve que c'est pas mal de leur donner ça, avec moi mon état d'esprit quand même un peu plus jeune dans ma tête,
oui,
de l'accessibilité que j'ai par rapport au travail que je fais et aux gens que je dirige.
Merci Greg pour ce témoignage. On y reviendra probablement. Vous nous parlerez peut-être des résultats du clé tout à l'heure, avec grand plaisir. Alors Isabelle, je pense que le témoignage de Greg vient complètement confirmer ce que vous-même vous recherchez.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des innovations récentes qui ont vu le jour grâce à ces collaborations? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors oui, on a des entreprises, enfin des jeunes entreprises de la EdTech là qui ont collaboré avec nos laboratoires et qui connaissent un petit succès déjà. Donc en fait on a beaucoup travaillé avec Glaster, Antoine Ozimour,
oui,
qui propose une solution pour tous les enfants 10. On a notre laboratoire d'intelligence artificielle qui travaille actuellement avec lui pour consolider la techno, mais c'est déjà quelque chose qui est repéré, qui est poussé par le ministère.
Voilà,
c'est un bel outil. Pareil avec Cantou, qui propose une solution un petit peu pour les enfants 10 aussi, pas la même solution, mais qui propose une plateforme pour les enfants 10 et avec lesquels on a aussi beaucoup travaillé. On a Silex, une entreprise qui propose pour les enseignants de sciences de la vie et de la terre maintenant, qui propose des ressources pour l'éducation à la sexualité. En fait, tous les enseignants de SVT ont 2 à 3 heures d'éducation à la sexualité.
D'accord.
À faire dans le cadre de leur programme, et souvent ils manquent de ressources pour aborder ces sujets un peu sensibles. Et donc Valérie Abessera propose, elle, une plateforme sur laquelle il y a plein de ressources et qui est adaptée, enfin qui a un petit quiz qui permet d'adapter le niveau de ressources au niveau de connaissances sur le sujet, puisque son application s'adresse du CM2 à la terminale.
D'accord, ah oui.
Voilà,
très
et
bien.
Donc effectivement, c'est tout type de ressources, et il y a vraiment tous les niveaux, et c'est vraiment une belle solution. Et là, on est en train de faire une mesure d'impact, c'est-à-dire qu'on va faire une expérimentation avec des classes qui l'ont, des classes qui l'ont pas, pour mesurer si vraiment ils apprennent.
apprennent des choses.
Oui, il y a une vraie, voilà. Une vraie connaissance.
Ouais, tout à fait. Donc du coup, effectivement, l'université met un petit peu d'argent sur ses projets,
oui. Hein,
puisque mm-hmm. c'est des projets qui ont besoin d'un petit peu de fonds pour pouvoir justement faire les mesures d'impact ou finir de développer la techno. Donc on met un petit peu de fonds de prématuration dessus. Et c'est pour ça que nous, après, on se rémunère via la prise de participation des royalties. Et puis on a aussi un bel exemple avec une enseignante de l'université qui va créer son entreprise pour une solution numérique pour l'apprentissage des langues en milieu professionnel avec un casque de réalité virtuelle et des scénarios qui permettent de tester en fait en milieu professionnel tout le vocabulaire anglais qui va avec. Donc elle l'enseigne dans une filière technico-commerciale, donc elle a déjà créé les scénarios de vente et d'achat. Donc en fait on peut être soit vendeur soit acheteur dans des magasins de luxe ou des magasins un peu moins de luxe, mmh. et ça permet de traiter tout le vocabulaire avec un IA qui vous dit que non, ça c'était pas bien dit, que ça va pas. Et donc là l'objectif avec le laboratoire d'IA c'est d'améliorer l'outil et de faire plus de scénarios pour que l'outil puisse ensuite être développé, et ce qui fonctionne pour l'enseignement supérieur pourra fonctionner aussi pour la formation professionnelle, pour des nouveaux entrants dans une entreprise qui ont besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances dans une langue différente.
C'est tout à fait le genre d'innovation. Quand vous en parlez, on se dit « Ah mais c'est oui, bien sûr !» Alors que ça n'existait pas jusqu'à présent.
C'est ça, voilà. Hein, c'est ça, ouais, c'est ouais. tout à fait. C'est pas ce qu'on appelle une innovation disruptive, c'est-à-dire qu'on ne change pas complètement de paradigme, mais c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la manière d'apprendre et qui vont pouvoir faciliter l'apprentissage.
Greg, je crois que vous vouliez intervenir aussi.
J'avais une question. Enfant 10, c'est dyslexique ?
Et dyscalculique.
Et dyscalculique, ok. Donc j'ai commencé à regarder sur mon téléphone, je me suis dit c'est quoi un enfant 10 ?
C'est des YS.
Voilà, des YS.
Donc une constellation de troubles.
Ok, très bien, très bien.
Merci à tous les trois. Je propose qu'on fasse une pause et puis on se retrouve juste après. Something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
You are my treasure.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et ce matin, dans l'économie en direct, nous explorons les chemins de la réussite à travers plusieurs parcours. Isabelle, on reprend cette interview très intéressante. Vous nous avez parlé de cette synergie qui existe entre le monde académique et l'entreprise et l'innovation. Est-ce qu'il peut y avoir des obstacles qui se présentent dans le cadre de ces partenariats, et si oui, comment les surmontez-vous?
Alors oui, il y a plusieurs obstacles qui peuvent se présenter. Le premier, c'est une techno qui fonctionne pas au final.
Ouais.
C'est-à-dire l'idée était bonne, mais la mise en pratique fonctionne pas, et donc c'est un peu la mort dans l'œuf, quoi. C'est-à-dire que on va pas plus loin parce que c'est pas le bon outil et c'est pas la bonne solution techno pour répondre aux problèmes posés. L'autre, on s'est heurté aussi à un problème. C'est que il peut aussi exister des solutions numériques identiques, c'est-à-dire qui font la même chose ou en partie la même chose et qui sont déjà bien en place. Et donc du coup, c'est compliqué de faire changer les habitudes des enseignants, oui, et de leur dire vous allez avoir un autre outil qui va faire à peu près peut-être quelque chose en plus, mais au final qui va faire à peu près la même chose. Donc là, effectivement, quand le marché concurrentiel n'a pas été bien étudié et que tous les concurrents potentiels n'ont pas été bien identifiés, quand nous, ils arrivent chez nous et que nous, on le fait, on leur dit oui, mais ça, ce que vous faites, ça et ça, ça existe déjà et c'est déjà en place. Donc ça va être compliqué de passer par-dessus s'il n'y a pas un truc en plus.
Bien sûr.
Après, il y a aussi les temps dans la tech, les temps de pénétration du marché et de premier chiffre d'affaires sont très longs. C'est vraiment une filière qui est difficile dans laquelle il est difficile d'aller, et donc il y a des fois c'est juste parce que les gens n'ont plus les moyens d'attendre les premiers contrats signés ou voilà, et que du coup ils sont obligés d'aller travailler, et puis à partir du moment où ils commencent à aller travailler le temps de développement est encore plus long,
bien sûr,
et du coup souvent ils se font doubler et donc ça fait des projets qui ne voient pas le jour alors qu'il y avait de l'idée, et puis on peut aussi ne pas tomber d'accord académique et entrepreneur sur la gestion de la propriété intellectuelle et les modalités de rétribution de l'université. Et dans ces cas-là, c'est pas grave, ça arrive. C'est parce qu'on c'était pas le bon moment pour ce type de collaboration.
Alors, vous me tendez un petit peu la perche parce que j'allais vous demander comment vous facilitez le transfert de technologies de la recherche académique vers des applications industrielles et comment vous les gérez au point de vue propriété intellectuelle.
Oui, alors du coup, à partir du moment où c'est co-développé avec nos laboratoires, c'est de la copropriété intellectuelle.
Oui.
Et donc c'est pour ça qu'il y a du royalties en cas d'exploitation. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, la partie mise en œuvre par l'université, doit être rétribuée. Et donc ça se gère dans des contrats de collaboration, des contrats de propriété intellectuelle. Et généralement, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, l'université n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires et du bénéfice.
Non.
C'est juste vraiment enclencher ce cercle vertueux qui va permettre de financer d'autres projets.
Et on a bien compris que vous arrivez de financer des projets. Est-ce que le fait d'avoir été éligible au PUI facilite ces financements?
Alors oui, bien sûr, parce que du coup le PUI nous a permis d'organiser les programmes de financement au niveau du territoire, donc d'avoir un peu plus d'efficience dans la manière d'utiliser les fonds, et ça nous a permis aussi, et c'est ce dont Christelle parlera juste après, de mettre en place un programme de prématuration dans les sciences humaines et sociales, dont font partie les EdTech.
Très bien. Isabelle, je crois que vous voulez nous parler de deux salons à venir.
Voilà, donc nous serons avec Christelle présente sur le salon EdTech Days à Lyon, dans lequel nous ferons d'ailleurs un atelier, une conférence sur justement ce lien entre académique et sphère socio-économique. Et nous serons
à quelle date?
Alors c'est le 6 novembre, pardon,
d'accord,
à Lyon, et nous serons présents sur le salon Educatech la semaine suivante, 3 jours, avec un stand, et sur notre stand on aura les startups qu'on accompagne.
Très bien. Et donc ça, c'est quelle date et à quel endroit?
C'est à Paris, Porte de Versailles. C'est 13, 14, 15.
D'accord.
Je
le note parce que je le rappellerai dans mes publications.
C'est gentil.
Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée?
Non, c'est complet. Parfait.
Voilà.
Merci Jacqueline.
Pour intervenir. Merci infiniment. Alors ne partez pas, on fait une pause et on se retrouve juste après.
Tu te souviens les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes. À Paris, c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine, c'était rien. Que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et ce matin dans l'économie en direct, j'ai le plaisir d'accueillir l'université de Cergy-Pontoise et un entrepreneur, le Poulpe français, une émission consacrée précisément à l'université et à cette entreprise. Avec à mes côtés Isabelle Hofkens, directrice adjointe de CY Transfer, CY Cergy Paris Université, Christelle Ventura, directrice adjointe en charge de la valorisation des sciences humaines et sociale pour CY Transfer, et Greg Salahunt, je le prononce bien, oui, ça va.
J'ai l'habitude, Jacqueline.
Président du Poulpe français, groupe spécialisé dans la communication sur un point de vente 360 dont le siège est à Argenteuil. Alors Christelle Ventura, vous, votre dada, on va dire, ce sont les sciences humaines et sociales.
C'est ça.
Et aujourd'hui, pour CY Transfer, une place qui, aujourd'hui, est vraiment essentielle pour mieux comprendre les implications plus larges de l'innovation, c'est ça?
Oui, en effet. Nous savons que l'université est un réservoir d'innovation.
Mais nous partons du postulat à CY que l'innovation n'est pas que technologique. On a beaucoup parlé de head tech, on a beaucoup parlé de techno, mais parfois l'innovation n'a pas de technologie. Et dans les sciences humaines et sociales, qui est un vaste domaine de recherche, qui regroupe une soixantaine de disciplines, l'innovation ne se réduit pas à une technologie. Ça peut être une méthode, ça peut être une enquête, ça peut être de la donnée, ça peut être de l'expertise, mais ça peut être aussi des solutions qui ne rencontreront pas de verrou technologique parce qu'elles vont utiliser des technologies existantes. Et ce réservoir d'innovation, il est assez peu exploré. Et c'est un des enjeux stratégiques de Sergi et du PUI de proposer des méthodes pour détecter, pour sensibiliser les chercheurs en sciences humaines et sociales et transférer des compétences, des savoir-faire, des idées, des solutions vers le monde socio-économique.
Alors vous dites qu'il est peu exploré parce que justement ça ne débouche pas forcément sur une technologie ou,
exactement,
c'est ça ?
C'est peu exploré parce qu'on est... Il y a 20 ans d'expérience sur le transfert de technologie où le pilier principal, c'est le brevet. Et on va céder l'exploitation du brevet ou exploiter le brevet. C'est l'indicateur de référence. Pour les sciences humaines et sociales, ça peut arriver de déposer des brevets, mais c'est extrêmement rare. Ça veut dire qu'il y a une techno. Du coup, c'est un champ qui est assez peu exploré et les chercheurs sont très peu sensibilisés à la valorisation socio-économique de leurs travaux. Les entreprises sont un peu effrayées de la posture du sociologue, du philosophe, de l'historien, et ne voient pas comment ça pourrait s'intégrer à leur propre recherche et développement. Et du coup, on a ces deux mondes qui aimeraient se rapprocher et qui gagneraient
qui
à se rapprocher,
pas forcément
mais qui ne
faire.
Sont pas outillés pour le faire. Donc la première étape, ça a été d'outiller le PUI et CY Transfer, d'outils en adéquation avec la réalité de la recherche en sciences humaines et sociales. Mmh. Et donc d'arrêter de demander à un historien s'il prévoit de déposer un brevet.
D'accord. Oui, parce que la question était caduque, quoi.
Était caduque. Moi-même, chercheur, quand j'ai voulu essayer de remplir les documents d'une déclaration d'invention avec mes propres travaux de recherche, entre nous, il n'y avait rien qui rentrait dans les cases. C'était impossible de répondre en tant qu'anthropologue à savoir est-ce que vous développez une techno, c'est quoi votre code logiciel et les manips donnent quoi. Ça n'avait aucun sens.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des publications, mais elles ne seront pas forcément brevetées, c'est ça ?
De toute façon, pour breveter quelque chose, il faut qu'il y ait un dispositif.
Oui. Ouais.
Moi, en tant qu'anthropologue, j'ai des méthodes, j'ai un savoir-faire, j'ai des données. C'est intangible. Mmh. Donc la valorisation, il faut la penser comme étant peut-être plus sur mesure que rentrant dans les schémas linéaires du transfert de technologie. Parce que là, c'est pas de la techno qu'on va transférer. On va transférer des solutions, mais au sens large du terme. Du coup, il faut inventer pour chaque projet, c'est de la broderie, et faire du sur-mesure. On détecte quelque chose à fort potentiel dans un laboratoire et on imagine avec l'équipe de recherche qu'est-ce qui pourrait accéder à la société pour le bénéfice de la société. Donc on vise de l'impact sociétal, c'est-à-dire comment on améliore le bien-être, l'accès aux soins, l'apprentissage, avec des solutions qui sont pas forcément disruptives, qui sont pas forcément en deep tech, mais on va plutôt partir du principe que la deep tech, c'est de la rupture, mais ça peut être aussi de la rupture d'usage, pas forcément de la rupture techno.
D'accord. Et est-ce que dans ce cas-là, vous allez peut-être essayer de résoudre des enjeux plus globaux comme le climat, la santé, ces choses-là ?
Plus globaux, plus sociaux et de proposer à la société des innovations qui vont améliorer le quotidien et améliorer le lien. Typiquement, dans les sciences de l'éducation, un projet pour la remédiation de la dyslexie ou un projet qui va aider l'enfant, l'impact sociétal est fort parce que le temps d'orthophoniste est réduit, la réussite scolaire est mieux, le bien-être de l'élève s'améliore et du coup, il y a un retour social sur l'investissement financier. Et c'est ce que vise surtout le programme Innovation et Société, c'est d'avoir des projets qui sont à l'équilibre financier pour pouvoir vivre, payer les salaires et générer de l'emploi, mais aussi avoir un impact positif sur notre société et pourquoi pas faire des économies aussi au niveau de la société.
Alors, moi, quand je vous accueille, hein, je parle pour Isabelle et Christelle, quand j'accueille l'université, je me sens candide, très candide. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que tout ça, c'est pas du pragmatisme, quelque part ?
Ben, c'est pas toujours facile de mettre en œuvre le pragmatisme. Voilà. Et nous, on est là pour faciliter cette mise en œuvre, pour faire se rencontrer des écosystèmes qui peuvent se nourrir l'un de l'autre dans cette boucle vertueuse.
Qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés autrement.
Exactement. Et d'initier chez les chercheurs un côté pragmatique de j'ai des choses positives dans ma recherche. Comment je fais pour la mettre en bénéfice dans la communauté ? Comment je sors mes acquis de mon laboratoire ? Par quel biais et avec quel objet ? Et c'est là tout l'enjeu du programme Innovation et Société, c'est de détecter dans les laboratoires qu'est-ce qui pourrait être mis au bénéfice de la société.
Greg Salont, est-ce que les propos de Christelle vous inspirent et vous donnent envie de poser une question ?
Une question, non, mais déjà une réflexion, c'est le sur-mesure. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la plus belle qualité étatique qu'on puisse avoir dans notre société, malheureusement, mais moi j'en ai fait les frais. Jeune, j'ai été diagnostiqué enfant hyperactif.
Oui.
C'était un petit peu le pot pourri qu'on a à l'entrée, oui, où il y a les clés, les boutons, les machins, les trucs. On se disait, oui, il est bizarre, lui, il doit être hyperactif. Donc, la dyslexie fait partie. J'ai été voir un orthophoniste aussi. Enfin, voilà, je connais le système. Et en fait, quand on rentre pas dans un cadre, de temps en temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense un peu à la méthodologie Montessori.
Oui.
Qui sur laquelle moi je me suis un petit peu intéressé, j'ai lu bien après, bien évidemment, mais je trouve que il y a comme ça des courants qui peuvent être intéressants, et en fait si on arrive à ressortir quelque chose pour les jeunes ou pour la société qui fasse avancer les choses, je trouve que c'est génial et franchement bravo.
Merci Greg pour ce nouveau témoignage. Alors Christelle Ventura, vous nous avez dit la difficulté qu'il y avait par rapport à cette acculturation des chercheurs, hein, mais aussi des investisseurs. Et là aujourd'hui, où en êtes-vous ?
Alors dans le programme Innovation et Société, on a lancé plusieurs actions.
Oui.
Pour justement sensibiliser et acculturer la communauté. La première action, c'est de créer des ateliers de sensibilisation à la valorisation socio-économique de la recherche, avec pour premier public les doctorants et les jeunes docteurs. Donc c'est des ateliers sur une journée où on explique un petit peu les enjeux de propriété intellectuelle, les enjeux de transfert, comment on imagine une solution, c'est quoi un marché. Là on l'a fait pour les doctorants de la Fondation des sciences du patrimoine, donc plutôt sur l'industrie culturelle et créative, et on les a mis en équipe pluridisciplinaire. Donc vous aviez un chimiste, restaurateur, vous aviez quelqu'un qui fait de la conservation préventive et un sociologue. Je les ai mis par équipe pluridisciplinaire pour qu'ils inventent un projet issu de leurs travaux où ils pourraient tous participer et apporter quelque chose. On a eu des trucs assez extraordinaires, dont un Patrimoine Go, qui serait un espèce de Pokémon Go, où on garderait en archive tous les lieux culturels qu'on aurait pu visiter. Donc ça deviendrait le premier réseau social presque.
D'accord.
La culture. Bon, c'est une idée, je trouve que c'est une idée fabuleuse, et pourquoi pas continuer à creuser cette voie-là. La deuxième étape pour sensibiliser la communauté, c'est d'être au plus près des chercheurs, de discuter avec eux, d'être présent sur les assemblées générales des laboratoires pour dire c'est possible, nous avons les outils en tout cas qui correspondent à vos activités. La troisième action, ça va être de publier d'ici à la fin de l'année un espèce de mémorandum de la valorisation des sciences humaines et sociales qui se concentre sur les forces scientifiques de CY. Donc par exemple le patrimoine, les sciences de l'éducation, exemplifiées avec des transferts et des créations d'entreprises réussies. Et puis la dernière action, pour envoyer un signal fort à la communauté, ça a été un appel après maturation qui a été lancé cet été, pour proposer des financements à des projets très amont, c'est-à-dire encore presque au stade de l'idée, pour mettre un petit coup de boost et voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une application tangible, quelque chose d'intéressant qu'on pourrait maturer par la suite et transférer, bien évidemment.
Et donc vous, cette nouvelle exploration, ça doit être fabuleux pour vous, parce que ça donne aussi un coup de boost à votre parcours académique.
Alors moi, mon parcours académique, il s'est arrêté il y a plus de 10 ans maintenant.
Oui, mais en tant qu'anthropologue, vous êtes, ça vous...
Complètement. Moi, j'ai adoré faire de la recherche. Mmh. J'ai l'impression de continuer à en faire, mais j'ai surtout l'envie de faire en sorte que mes collègues fassent de la recherche dans de bonnes conditions et potentialisent l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société.
Oui. Merci Christelle Ventura. Je propose qu'on fasse une pause à nouveau et puis on continue aussi ce débat passionnant avec vous. À tout de suite.
Jamais je ne lui avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour. Chaque instant, chaque jour. Et quand je pensais pas revoir la lumière, tu as fait fuir en moi toute ma colère. Mon BPM depuis s'accélère. J'ai l'impression que tu me connais par cœur. Ravi que mes défauts ne t'aient pas fait peur. De mon histoire, tu es le plus bel acteur. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre de nouveaux rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je te dis, je t'aime un peu, pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon, c'est toi. C'est toi, dans mon petit cœur depuis le début, le bon, c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début, le bon, c'est toi. C'est toi, toi, toi. Mon fils, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre de nouveaux rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je t'ai dit, je t'aime un peu, pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon, c'est toi. C'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je t'ai dit, je t'aime. T'aimes à peu près 100 000 fois. Jamais douté depuis le début. Le bon, c'est toi. C'est toi, toi, toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. C'est toi, toi, toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon, c'est toi. C'est toi, toi, toi.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin j'ai pu réunir Isabelle Hofkens, Christelle Ventura et Greg Salount pour notre plus grand bonheur. Alors Christelle, donc on a bien compris que les sciences humaines et sociales pouvaient permettre d'analyser des nouvelles technologies qui influenceraient les modes de vie, les relations sociales, les inégalités, les pratiques culturelles et l'intelligence artificielle dans tout ça.
Alors, ça peut être un outil. Oui. Ça peut être vraiment un vrai plus. Tout dépend ce qu'on met dans l'intelligence artificielle. Parce que souvent dans les entreprises, tout le monde parle d'IA. Dans les laboratoires, c'est autre chose encore.
D'accord.
Donc,
je connais un peu le sujet parce que je suis en train d'intégrer l'IA au sein de mon activité. Donc, je vois bien, en fait, l'IA, il faut l'enrichir. Voilà, c'est déjà ça. Et après, en fait, je trouve que l'IA, c'est une simplification d'une masse de données. Mais par contre, ça n'invente pas quelque chose.
Non, ça n'invente rien, mais c'est un accès à des connaissances d'une façon assez beaucoup plus rapide.
Oui, tout à fait. Ah. Maintenant, il faut juste savoir, et c'est ça mon sujet, même si je fais vraiment pas de politique, c'est l'algorithme qu'il y a derrière, qui le fait, pour qui il a été fait, et comment on va interpréter derrière ce qui ressort de cet algorithme et c'est ça, je pense que c'est demain par rapport à l'IA qui pour moi est une plus grande révolution de ces 20 dernières années, comment la société va arriver à traiter l'information qui va être ressortie d'une machine, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme derrière. Et derrière, ce que j'apprends à ma fille régulièrement, c'est le libre arbitre et de savoir ce qu'on voit et ce qu'on entend, si c'est pas une ânerie ou pas. C'est, je reprends un peu la
toujours
loi.
Vérifier,
je ne sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini, ok, où il faut pour un temps à partie égal, vous ne pourrez jamais démontrer qu'une ânerie et finalement en est une pour un temps à partie égale. Mmh. Voilà, c'est la base. Vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour prouver qu'une ânerie est dite que de le temps pour dire l'ânerie.
Merci Greg, merci infiniment. Alors Christelle,
Pour répondre à Greg, l'université, à mon sens, est là pour développer l'esprit critique et la capacité à recouper l'information et les sources. Autour de l'IA, par exemple, se pose le problème du droit d'auteur quand ça génère des œuvres. Voilà, une œuvre générée par l'intelligence artificielle, quelque part, elle appartient à qui? Quelle sera sa valeur? Est-ce qu'elle va suivre les cercles de la reconnaissance comme l'urine noire de Duchamp? Enfin, on ne sait pas encore. Donc, il y a plein de choses en devenir qui doivent être analysées, regardées avec un esprit critique. L'apport de l'intelligence artificielle dans les technologies autour des sciences de l'éducation, c'est compiler masse de données pour quelque chose de positif. Parce que ça va accélérer le traitement de la donnée, ça va compiler énormément de données. L'algorithme derrière, il est généré par des laboratoires de recherche et l'algo est entraîné. Du coup, il va produire ce qu'on lui demande de produire. Il va pas inventer des choses,
à
part générer peut-être de l'art.
Et dans les sciences de l'éducation, l'IA est surtout là pour personnaliser le parcours.
Oui. Exactement.
C'est-à-dire que dans un mode apprentissage-échec, il faut que si je me trompe, l'application soit capable de me proposer des choses pour me faire progresser sur là où je me suis trompé.
Oui.
Et c'est le rôle de l'algo, ça.
C'est ça, ouais, d'accord.
Et si on veut que l'intelligence artificielle ne devienne pas une bêtise artificielle, il va falloir qu'on travaille aussi sur qu'est-ce qu'on veut lui faire faire. Et là, il y a des questions d'éthique qui vont se poser et qui vont mobiliser aussi les sciences humaines et sociales pour savoir est-ce que l'impact ne sera pas négatif.
Complètement.
Et les politiques. Et à un moment ou à un autre, il va falloir légiférer, quoi qu'il arrive.
Probablement.
C'est certain.
J'aime bien l'expression que l'intelligence ne devienne pas une bêtise artificielle. Oui, ça me va très bien. Christelle, on comprend que vous avez déjà amorcé beaucoup de chantiers depuis mai 2024. Votre principal souci, c'est de convaincre la communauté du bien fondé de la démarche et toujours proposer des méthodologies innovantes.
Je crois que la communauté est convaincue du bien fondé. Mon rôle et la mission du PUI, c'est de lui donner les outils pour vraiment mettre en œuvre un impact sociétal positif. Et c'est un des piliers du PUI, c'est de démontrer que les sciences humaines et sociales sont un réservoir d'innovation transférable vers la société pour le bien collectif.
Et qu'elles auront leur rôle crucial dans les réflexions éthiques et de la responsabilité sociale dont on parle énormément en ce moment.
Exactement. L'impact de la recherche sur la cité, c'est du ressort des sciences humaines et sociales.
Et depuis que vous avez commencé ces chantiers, sentez-vous quand même un véritable intérêt de la part des chercheurs pour
Complètement.
Mission?
On a lancé le premier appel à projet pour la prématuration en plein été. On a remonté 10 projets. Ce qui est très
c'est beaucoup,
pour un premier appel lancé au mois de juillet, on est vraiment extrêmement contents. C'était un appel blanc, donc toutes disciplines confondues. Les dossiers sont en cours d'analyse. On a de très jolies choses. Donc la communauté, je pense qu'elle est à partir du moment où on lui propose les outils dont elle peut se saisir et qui font sens par rapport à sa recherche, elle est volontaire. Maintenant, il faut continuer à offrir cet accompagnement sur mesure et à être disponible pour la totalité de la communauté. Les laboratoires de sciences humaines et sociales sur Cergy, c'est la moitié des labos, donc c'est une belle communauté. Et il faut être en adéquation avec leur recherche et leur thématique.
Bien sûr. Isabelle Hofquin.
Ouais, ils sont d'autant plus convaincus que c'est quand même les sciences humaines sociales sont quand même une discipline qui a été longtemps un peu le laisser pour compte du financement de la recherche, ou quand elle était financée par des plans SHS du ministère, ça se concentrait sur quelques disciplines des SHS. Donc je pense qu'à partir du moment où on arrive avec des programmes leur étant dédiés, des financements leur étant dédiés et des outils leur étant dédiés, on peut avoir que leur adhésion en fait. Et donc il faut juste qu'on ait les premiers dossiers qui sortent, qui fonctionnent, pour qu'on puisse ensuite implémenter un élan par la preuve, par l'exemple, quoi.
C'est ça, oui. Ceux qui sont encore un petit peu pas complètement convaincus, ces dossiers vont les convaincre.
C'est ça.
Merci infiniment à toutes les deux, Isabelle et Christelle, pour vos témoignages. Et puis on a bien compris que votre intervention, Christelle, est probablement aussi importante que toute la technologie. Hein, on l'a bien compris. Merci infiniment.
Merci.
Nouvelle pause avec un peu de musique.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Isabelle Hofquins, directrice adjointe de CY Transfer, Cergy Paris Université, Christelle Ventura, directrice adjointe en charge de la valorisation des sciences humaines et sociales pour CY Transfer, et Greg Salhund, président du Poulpe français, un groupe spécialisé dans la communication sur un point de vente 360 dont le siège est Argentine. Alors Greg, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin dans nos studios. Je vous laisse vous présenter et nous démontrer comment l'expérience pratique, l'intuition et l'expérimentation peuvent faire avancer les projets.
Ok, je vais tenter ça. Moi je dirige donc un groupe aujourd'hui spécialisé dans la communication visuelle, donc j'accompagne mes clients à promouvoir leurs produits sur le lieu de vente, mais bien évidemment pas que. Comment j'en suis arrivé là, c'est beaucoup d'alignement de planètes.
Entre McDo et le Poulpe français.
Entre McDo et le Poulpe français, souvent je parle beaucoup, je fais beaucoup de mentorat et je parle beaucoup à mes mentorés de l'échec. Et je leur demande souvent s'ils ont peur de l'échec ou pas. Et en fait, tout le monde a peur de l'échec. D'une manière générale, on fuit l'échec. Et j'ai compris assez rapidement que l'échec allait être mon meilleur allié. C'est compliqué à accepter, mais l'échec a fait ce que je suis aujourd'hui. Et effectivement, en étant passé par Poste à frites chez McDo, j'ai pas fait long feu. Hein. Ils m'ont éconduit au bout de 14 jours parce que j'avais pas respecté le process. Mais c'était fou parce que quand même, quand on a 17 ans, qu'on arrive chez McDo et que le premier truc qu'on nous fait, c'est nous mettre dans une salle avec une télé et un magnétoscope, on nous passe une cassette et on nous explique comment on met des frites dans un cornet. Ok ? Et tout est ultra normé à la seconde près. Donc je parle de ça il y a 25 ans. Mmh. Ok ? Donc aujourd'hui on sait les process qu'on peut avoir. Donc déjà sans le savoir et sans le comprendre, on m'a inculqué que il fallait des process dans une entreprise. Mmh. Déjà. Ok. Alors
sur le moment vous les avez refusés, mais vous les avez intégrés quelque part.
Mais si je vous raconte la raison pour laquelle on a mis fin à ma rupture, à ma période d'essai, elle est folle. Vous avez le droit à un repas au McDo. C'est comme ça, c'est dans votre contrat à l'époque. J'étais au McDo Bastille et en fait donc vous avez compris qu'il y a des process, faut les respecter. Et moi j'étais pas fait pour respecter les process à l'époque. J'étais un créa, j'avais mille idées à la seconde. Bref, pour mon repas personnel le midi, je me fais un sundae, et donc sundae c'est glace, chocolat, enfin topping plus les cacahuètes, et là j'ai mis le topping d'abord, petit plaisir personnel, les gens qui aiment le sucre, la glace et un petit coup de topping, mais pas de cacahuètes, et je vais en salle manger mon repas que j'ai pris pour moi à titre personnel.
L'horreur.
Voilà, mon manager me voit et il me dit, ça par contre c'est pas réglementaire, hein, ça va pas pouvoir le faire. Je fais non, mais c'est conso perso. J'avais l'impression que j'avais affaire à un flic qui m'arrêtait parce que j'avais un truc illégal sur moi, et il me dit, c'est la dernière fois. Inutile de vous dire que ce genre d'information, pour moi, ça fait comme sur un parapluie. C'est la dernière fois. Le lendemain, je me suis fait exactement le même truc. Et bien évidemment, le surlendemain, j'avais un courrier dans la boîte aux lettres m'expliquant que je n'étais pas souhaité au McDo Bastille. Voilà, donc ça a été ma première expérience professionnelle qui a duré 14 jours. Et donc, mais c'était intense. C'était intéressant. J'avais 16 ans et demi, et donc j'ai découvert le monde du travail. C'est-à-dire, j'ai découvert ce que c'était que d'arriver à l'heure. J'ai découvert ce que c'était que de respecter des règles. J'ai découvert ce que c'était que de servir un client. Je vois aujourd'hui l'organigramme du poulpe français est circulaire et non pyramidal. J'insiste sur ce genre de choses-là parce qu'en fait, souvent et depuis la nuit des temps, on fait des organigrammes ou des organigrammes pyramidaux, pyramidaux, hein, voilà. Et en fait, on est là pour servir le président. Ah, vous n'avez pas compris, en fait. Vous êtes là pour servir le client. Je ne vous paye pas avec mon argent, mes collaborateurs, c'est le client qui vous paye avec ce que vous faites pour lui. Et donc, en fait, en créant cette espèce d'organigramme circulaire, déjà, je comprends beaucoup plus. J'enlève ce côté hiérarchique qu'on qu'il arrive. Quand j'arrive dans une pièce, on sait bien que à un moment ou un autre je dirige.
Vous quand même qui versez les salaires.
Oui, tout à fait, mais encore une fois, par le fruit du travail de mes collaborateurs et pas par le fruit de mon travail à moi. Et parfois les meilleures idées viennent souvent de mon équipe et pas forcément de moi aujourd'hui. Mais et donc c'est pour ça déjà que je leur montre et leur prouve que le truc est circulaire et qu'on est là pour servir le client et qu'on est tous dans la même team. Voilà, c'est déjà un schéma qu'on a du mal parfois à voir dans d'autres entreprises où faut qu'il y ait le patron et que j'ai mon chef et autres. Voilà. Donc déjà voilà, on vient de loin et moi mon expérience professionnelle s'est fait petit à petit. J'ai été beaucoup dans le commerce parce que quand vous n'avez pas fait d'études. Vous pouvez pas prétendre à quoi que ce soit d'autre que d'essayer de vendre quelque chose si vous êtes plus ou moins un bon vendeur. Donc fatalement, j'ai suivi comme un saumon qui remonte la rivière, pérégrination de voilà, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des consommables informatiques, j'ai vendu du tissu, j'ai vendu des accessoires pour le tissu, j'ai vendu des pochettes surprises en boulangerie où j'étais obligé de me lever à 3h du matin pour aller voir les boulangers au moment où je pouvais leur caler des pochettes surprises sous licence Disney parce qu'ils voulaient pas me recevoir en journée parce qu'en fait ils dormaient les boulangers pour le coup.
Mais en tout cas c'est que vous étiez fait quand même pour la vente.
Ah oui, vous me donnez clair. N'importe quoi, je peux vous le vendre. Il n'y a aucun problème, je sais faire même un produit que je connais pas, je suis très à l'aise avec ce sujet-là, mais une fois qu'on a compris ça, c'est vous savez, vous pouvez avoir un commercial excellent qui va être un très 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 mauvais directeur commercial. Et donc le sujet c'est voilà, le sujet c'est d'essayer de faire le bridge entre expliquer ce que c'est qu'une activité commerciale et que manager, c'est un autre métier qui vient se coller au métier qu'on sait faire. Voilà. Et en fait, si les managers ne comprennent pas que manager est un métier et que commercial est un autre métier et qu'en fait, quand tu es directeur commercial, tu fais deux métiers en un, c'est problématique. Voilà. Et j'ai déjà souvent vu ça, pas forcément que dans directeur commercial, mais dès qu'on devient manager et qu'on était dans une équipe et qu'on est propulsé manager, souvent...
On oublie les règles de base. Voilà. C'est clair. Alors... Vous m'avez expliqué que vous avez eu l'opportunité de racheter le Poulpe français. Donc, comment cette opportunité s'est-elle présentée?
Alors, le Poulpe français, à la base, ne s'appelait pas le Poulpe français, mais je vais vous faire la genèse très rapidement. J'ai racheté Carré Prod en 2011. C'était une société où il y avait 350 000 euros de chiffre d'affaires, 5 salariés, 80 000 euros de loyer. Donc, si les comptables qui nous écoutent ont envie de faire le calcul, vous allez voir, c'est assez
radical.
C'est impossible. Ça tenait pas la route, voilà. Moi, je suis rentré dans ce secteur d'activité par le biais d'une amie qui m'a trouvé cette opportunité, et donc j'ai racheté cette entreprise. Petit à petit, j'ai changé. Déjà, j'ai fait mon innovation interne et j'ai vu que toutes les machines étaient vieillissantes. On utilise des machines qui ont un odorat vraiment très fort et avec des encres à solvant. J'ai changé pour des encres écolsolvant ou des encres latex, ne serait-ce que pour déjà mes collaborateurs, pas qu'ils se baladent avec un masque à gaz toute la journée. Enfin voilà, c'était vraiment très désagréable. Et puis j'ai commencé à apprendre ce que c'était que ce métier, ce que j'ai fait en fait toute ma vie, c'est-à-dire
Est-ce que vous étiez déjà dans le domaine de l'impression ou pas du tout,
Jacqueline,
à l'époque?
Pas du tout. Vous me posez dans un environnement et je m'adapte à cet environnement, comme tous les environnements dans lesquels je suis arrivé. Je sortais d'un environnement informatique où je venais de vendre une société qui faisait de l'accompagnement au départ aux seniors pour s'acclimater avec l'univers informatique. Donc ça, c'était une société qui s'appelait PC Dépannage et en fait on était devenu finalement les installateurs en Île-de-France, mais quasiment en France, certains ne connaissent pas, mais Surcouf, Fnac, Neuf Télécom et autres. Je venais de vendre cette activité là
donc vous aviez eu déjà un premier succès.
J'en avais eu d'autres. J'ai fait de la com par l'objet en tant qu'entrepreneur.
Voilà. Et donc vous aviez une surface financière aussi.
Oui, mais elle m'a pas coûté bien cher Carré Prod.
D'accord. En fait, c'était simple.
Ça s'est racheté à 24-48 heures du tribunal de commerce.
D'accord.
Donc, en gros, le gérant de l'époque s'est dit, vas-y, je te file la patate chaude, Coco, je me débarrasse des dettes. Et effectivement, quand j'ai repris la direction de Carré Prod, qui est devenu le Poulpe français ensuite, plus aucun fournisseur voulait nous livrer. Les clients, on n'arrivait plus trop à les servir. Et donc, je suis arrivé dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas, qui est ultra technique quand même. Et donc, le jour où j'ai signé les parts, je me rappelle, c'était un soir chez un avocat. Le lendemain matin, je suis arrivé, il y avait les 5 salariés. Je fais bon, ben voilà, je suis le patron maintenant. J'y connais rien, pour info. Qui reste? Qui veut partir? Il y en a 4 qui ont levé la main et qui se sont barrés. Et il y en a qu'un seul qui est resté. Et il est resté pendant 10 ans avec moi.
Ah, formidable.
Voilà.
Donc, il avait quel poste?
C'était devenu mon chef d'atelier. Et en fait,
donc
c'est,
il vous a tout appris.
C'est, bah, plein. Enfin, sans lui, je n'en serais pas là. Et en fait, moi, j'ai des grands-parents qui étaient maroquiniers. Et ma grand-mère, elle m'a toujours expliqué, si tu juges quelqu'un, faut savoir ce qu'il fait. Sans ça, tu peux pas te permettre de juger quelqu'un. Et donc,
oui,
donc je me suis dit,
base,
ok, si je me mets à pouvoir dire à quelqu'un qui pose mal de l'adhésif, qu'il imprime même de l'adhésif, faut que je sache moi-même le faire. Donc, j'ai passé des jours entiers à apprendre. Et en fait, tout en faisant, en rattrapant les dettes de la boîte dans laquelle je n'ai pas injecté d'argent.
D'accord.
J'ai été voir les banques, j'ai été voir les fournisseurs, j'ai négocié avec eux, et derrière, il a fallu continuer à travailler avec les clients, trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux salariés, financer des machines, faire les yeux doux à la banquière pour lui expliquer qu'il fallait financer des machines alors qu'en fait, finalement, on était limite à la banqueroute. Et ça, c'est un vrai sujet quand même quand on est entrepreneur, parce que vous avez la responsabilité finalement de l'entreprise que vous dirigez en bon père de famille, mais derrière, en fait,
Patron, c'est la banque.
Voilà, votre patron, c'est la banque, et votre premier associé, c'est l'URSSAF.
C'est ça.
C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et donc, quand vous savez que vous avez fait ce choix-là, on va dire, moi, j'ai fait ce choix pour une raison simple, qui parfois est un sujet tabou en France. Jeune, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Et ma réponse était simple, je me suis dit, je veux devenir riche. Voilà. Comment? De manière légale, parce que quand t'as 16 ans et que t'as plein de choses qui s'offrent à toi, et tu peux atterrir dans des environnements très problématiques. Donc heureusement que j'ai reçu une éducation assez clair et rigoureuse, qui faisait que je me dis voilà, je comprenais que je ne pouvais pas aller dans un environnement qui est un environnement illégal. Mais je voulais devenir riche, ok, très bien. Comment? J'ai commencé à être salarié, je me suis dit en fait jamais je deviendrai riche en étant salarié. C'est dead. Je l'ai compris très rapidement, en tout cas mon niveau de richesse que j'estimais,
par exemple.
Mais c'est une des premières questions que je pose aux jeunes qui sont là. Déjà pour savoir qui va payer une retraite, s'ils ont envie de la payer, ouais, c'est déjà un petit truc intéressant, mais c'est la première question que je pose aux jeunes, c'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de devenir riche? Et il y en a, ils parlent de richesse intellectuelle, il y en a qui me disent que pour 2500 euros par mois, ils sont riches, et il y en a, ils disent, moi, je veux un jet privé. Voilà, chacun a son niveau de richesse, que je respecte totalement. Moi, j'avais pas de limite. Je m'en fichais, mais je voulais devenir riche. Voilà, c'était mon truc. Donc salarié, j'ai compris que ça allait être compliqué sans études. Donc je me suis dit, faut être son propre patron. J'avais pas d'autre choix. Donc moi j'avais un objectif. Et pour le coup, je suis mindseté comme ça, j'ai un objectif, j'y vais.
Vous y allez,
quoi qu'il arrive. Jour, nuit, qui pleuve, qui neige, qui vente, objectif.
Ouais.
Et quand on me dit que c'est perdu, je continue. Mais c'est l'ADN de l'entrepreneur, et j'en reviens à mon échec du début, quoi qu'il arrive. Donc, voyant ça, j'ai été obligé d'entreprendre, petit à petit. Et j'étais obligé de grossir dans ma tête, d'apprendre à lire, un bilan. Aucun comptable ne m'a donné de cours. Je n'ai jamais pris un cours de comptabilité pour aller lire un bilan. J'ai fait une levée de fonds. On m'a jamais expliqué comment on faisait une levée de fonds. Il y a un moment ou un autre où il y a du feeling.
Il faut se lancer.
Faut comprendre. Faut avoir effectivement le nez fin. Faut avoir de la chance. On en parlait hors antenne tout à l'heure sur est-ce que la chance est une compétence ou pas.
Oui, mais bon, la chance, ça se saisit, hein.
Et je pense que ça se saisit, que ça se travaille, que c'est une vraie compétence, voilà. Donc là, en l'occurrence, Carré Prod, ça a été une opportunité.
Ouais.
Et j'ai transformé cette opportunité en une entreprise aujourd'hui où il y a 50 collaborateurs et qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai pris 4 ans sans vacances. Zéro.
Bien sûr.
Voilà. J'y ai passé des jours et des nuits entières et j'ai appris ce que c'était que ce métier-là.
Bravo, félicitations pour c'est tout ce que j'avais envie d'entendre à travers vous. Je connaissais pas votre histoire, mais voilà, elle est très belle.
Merci
Greg. Isabelle et Christelle, qu'est-ce que vous inspire cette carrière de Greg? Christelle.
Ben qu'il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Qu'on peut bien évidemment saisir des opportunités, construire de la chance et résister aux échecs qui sont de toute façon inhérents à toute création d'entreprise et à tout parcours professionnel. Quand on se lance dans un projet, ça veut dire qu'on accepte le paramètre échec. Et c'est ça, prendre un risque. Et votre parcours en témoigne beaucoup, vraiment en témoigne bien.
Alors justement, Christelle, est-ce que ce genre de témoignage pourrait venir enrichir votre réflexion dans votre mission?
Toujours, parce que la fibre entrepreneuriale, elle n'est pas partout. Enfin, moi, je ne demande pas à mes chercheurs de devenir entrepreneurs. Hein. C'est pas leur métier, c'est pas leur ambition. Mais d'aménager des rencontres avec des entrepreneurs et des projets pour que le paramètre de risque et le paramètre de chance y soient injectés. Et du coup, c'est de créer une communauté qui se rencontre et parfois des matchings qui se font entre une techno, un projet, un savoir-faire et quelqu'un qui pourra porter le projet vers la société.
Merci Christelle Ventura. Isabelle, un mot rapport à cette...
Un mot, c'est les parcours comme ça, c'est toujours inspirant. Ouais. Et moi, j'aurais juste envie de dire, venez en parler à nos entrepreneurs.
Avec plaisir.
Alors, moi, j'ai retenu dans un des arguments de CY Transfer et du PUI, hein, le pôle universitaire d'innovation, c'est passer du rêve à la réalité. Quelque part, Greg, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour vous?
Franchement, sans que je m'en rende compte.
Ouais.
Très honnêtement, parce que j'ai eu une envie et après j'étais dans le dur pendant des années et des années et des années et des années. Mais oui, tout à fait. Finalement, quand on regarde, quand je me retourne et que je me dis oh, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai 5 potes depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes. Et il y en a un qui fait collection de toutes mes cartes de visite.
D'accord.
Et donc, de temps en temps, il me ressort et il me dit, tu te rappelles quand t'étais ça? Tu te rappelles quand tu faisais ça et tout? Et je trouve ça génial parce en fait, c'est tout à l'heure, vous parliez de réseaux sociaux sur les lieux de, voilà, et on met limite, on pourrait se dire, tout le parcours finalement qu'on a fait. Moi, demain matin, vous me demandez de faire un CV. Alors que j'embauche, je vois à peu près entre 100 et 150 personnes par an et que j'accompagne beaucoup de gens qui sont aujourd'hui ou au RSA ou qui cherchent un emploi. Je les coach. J'en ai d'ailleurs coaché encore hier pour leur expliquer pourquoi vous trouvez pas un emploi. Mm-hmm. Comment votre CV? Moi, personnellement, je serais incapable de faire un CV. Pour moi, qu'est-ce que je mets dessus? Un peu de tout.
Oui, c'est comme quand
t'es au resto et que t'hésites entre trois plats, je vais prendre un peu de tout. Comme ça, au moins, on va tester. C'est ça, c'est un vrai sujet. Donc, entre la réalité, l'envie et le réel, bon, bah, on sait pas toujours dans quel endroit on est. Mais aujourd'hui, je me retourne, je suis quand même assez content
ça,
de là où
sûr,
j'en suis. Mais
sûr.
J'ai encore des objectifs, hein.
Et vos parents, alors, que disent-ils? Aujourd'hui.
Alors.
Vaste question.
Comment vous dire? J'ai une mère qui a été très, très présente dans ma vie. Voilà. Qui a tout de suite identifié un truc. C'était, les parents, bizarrement veulent que leurs enfants réussissent.
Bien sûr.
Alors, je prenais cet exemple dont je discutais au clé avec des proviseurs de collège et de lycée. C'est en fait, je leur disais, mais attendez, vous n'allez pas me faire croire que tous les parents de vos élèves veulent que leurs enfants soient comptables ou avocats ou docteurs. Et ils me disent, mais si, en fait. Et donc, ma mère voulait le mieux pour moi. Quoi qu'il arrive, elle se disait, mon fils, c'est un génie. Là, je fais, mais non, en fait, il n'y a pas de génie là-dedans, il n'y a rien du tout. Et donc, On va dire que mes parents m'ont donné l'éducation nécessaire pour faire en sorte que je respecte les règles de la société. Ouais. Déjà, de base, c'est là-dessus que je peux les remercier. Mmh. Et c'est vrai que j'ai regardé... Moi, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Mon beau-père et mon père, que je considère comme mes deux pères, j'ai cette chance. J'ai toujours regardé ce qu'ils ont fait parce que les deux sont entrepreneurs. Ah. Ils ont
quand même baigné dans cette ambiance.
J'ai baigné dans cette ambiance. Et les deux ont eu des échecs cuisants.
Ah, d'accord.
Et des échecs cuisants. Et donc, j'ai vu ce qu'il fallait pas qu'il m'arrive. Voilà. Et que chaque jour, je me dis, demain, je peux tout perdre. Et si, en tant qu'entrepreneur, je perds tout, bien évidemment, je n'ai pas de chômage. Bien évidemment, les banques, c'est fini. Il n'y a plus rien. Bien évidemment, pour remonter quelque chose ou pour me vendre en tant que salarié, quelque part, il va falloir que l'entrepreneur en question qui m'embauche accepte d'avoir quelqu'un qui est potentiellement un leader, parce que je prends beaucoup de place, je le sais, et c'est comme ça que je suis, donc il faut avoir ce recul nécessaire. Donc j'ai vu ce qui s'est passé dans ma famille et je me suis dit, ok, t'as choisi quand même le pire boulot, entrepreneur, on va pas se mentir, quand même c'est, enfin je veux dire, en termes de retour, effectivement, quand ça fonctionne et qu'il y a de l'argent, franchement c'est génial.
C'est ça.
Mais les entrepreneurs, quand ça fonctionne pas et qu'ils sont en train de lutter et que c'est compliqué, c'est extrêmement ingrat.
C'est clair. Merci infiniment. Je propose qu'on fasse une dernière pause et j'aurai une dernière question à vous poser, Greg. À tout de suite.
Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Dès comme des torticolis, je vais entendre toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours voir le septième ciel. Dire ce que je ressens, non ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filant tout j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. J'suis le meilleur, elle le fait que son possible. J'dis à tout à l'heure, elle me dit j'serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. J'veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. J'veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 change Maria.
Me muero, María, che, che. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous avons un débat passionnant entre Isabelle Hofkens, Christelle Ventura et Greg Salhunt. Alors Greg, on a compris toute l'énergie que vous avez pour devenir riche, parce que finalement c'est ça l'objectif. Le Poulpe français aujourd'hui est une entreprise qui est en pleine croissance, hein, qui se porte bien. Est-ce que vous auriez un rêve d'innovation qui pourrait créer une valeur ajoutée au Poulpe français? Est-ce que vous y avez déjà songé? Et si oui, est-ce que cette rencontre, elle pourrait être un point de départ entre CY Transfer et votre entreprise?
Alors, déjà, j'ai compris dans mon secteur d'activité. Et il faut bien comprendre que on a un secteur d'activité qui est très concurrentiel. Les manufactures comme le Poulpe français qui est basé à Argenteuil, dans lequel il y a plus de 3000 mètres carrés, vous avez le pré-presse, les conducteurs machines, les machines, il y a 3 millions d'euros de machines qui sont au rez-de-chaussée et je vous invite, mesdames, à venir nous visiter avec grand plaisir. J'ai compris très vite que si t'étais pas toujours à la pointe de la technologie dans ton métier, le train partirait sans toi. Donc je dès qu'il y a un move à faire intéressant vis-à-vis de mes clients pour leur proposer quelque chose d'innovant, une méthodologie de production,
une amélioration, produit,
voilà. Je suis toujours friand, quoi qu'il arrive, toujours friand de ce genre de choses-là. Ouais. De ce que j'ai entendu depuis le début de l'émission, je ne sais pas. C'est flou pour moi de me dire de quelle manière on va pouvoir trouver un lien technique très très objectivement. Maintenant, je pense que c'est en se rencontrant et en venant vous chez moi et moi chez vous pour dire ah ok vous faites ça, ah ok vous êtes capable de faire ça, ah mais attendez j'ai une idée géniale qui fait que voilà. Moi pour ma part, je sais que l'IA est un vrai sujet chez nous, qu'on est en train de développer pour nous faire gagner du temps, quoi qu'il arrive. Le métier de pré-presse et l'IA va détruire fatalement des métiers et va en créer d'autres, comme Internet on a détruit, comme on a créé d'autres. Ouais. Aujourd'hui, j'embauche plus des prompteurs pour parler à une IA plutôt qu'un graphiste. Donc c'est quand même une évolution.
Ah oui, c'est passé à ce niveau-là.
Et quand je suis allé voir mon assistante Émilie, que j'aime par-dessus tout, et que je lui dis il faut que tu me trouves un prompteur, et elle m'a fait un quoi, un prompteur, c'est quoi comme métier ça, voilà, et elle dit c'est un nouveau métier, et je dis oui parce que c'est pour parler à une IA machin et tout. Donc moi je suis toujours donc aucune idée de savoir comment on peut trouver un bridge entre nous, mais en tout cas, venez nous visiter avec plaisir.
C'est souvent le point de départ d'ailleurs, hein, c'est une visite en
Isabelle.
C'est souvent le point de départ, c'est une visite en entreprise où on discute, on se rend compte qu'il y a certaines problématiques qui émergent dans l'activité quotidienne de l'entrepreneur et où nous, ça nous permet de voir si on pourrait avoir des solutions à mettre en face ou pas. Et effectivement, l'IA, la robotique, ça peut être aussi de la chimie,
des solvants,
des nouveaux matériaux, des choses comme ça. Il y a potentiellement plein de choses. Et donc effectivement, c'est en se rencontrant et en voyant comment les lieux, le type de machine, comment ça fonctionne, en discutant de l'activité, vraiment à proprement parler, qu'on arrive à créer des ponts et c'est comme ça que ça fonctionne.
Bien sûr. Eh bien, heureuse je suis d'avoir créé ce lien. Merci infiniment, Greg, pour cette belle démonstration de réussite personnelle. On retiendra que la satisfaction de vos clients reste une des clés de votre croissance. Hein.
Évidemment, toujours, et pour tous les entrepreneurs.
C'est vrai. Merci infiniment. Voilà, on arrive, c'est bientôt la fin de cette émission. Donc, la tradition veut que je redonne la parole quelques minutes à chacun de mes invités avant de nous quitter. Donc, Christelle Ventura, un mot avant de nous quitter.
Déjà, vous remercier pour l'invitation. Et puis, pour cette rencontre avec le Poulpe français, je ne doute pas que la visite va nous donner plein d'idées que j'espère qu'on pourra les mettre en œuvre.
Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Greg, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Vous remercier également. C'est toujours cool de pouvoir s'exprimer à la radio et de d'avoir, on va dire, pas de langue de bois sur la vie d'un entrepreneur et d'un autodidacte et qui n'a pas fait d'études et de montrer quand même que c'est possible.
Bien sûr.
Mais que c'est pas facile et qu'il faut beaucoup lutter. Donc je vous remercie pour ça. Alors, je vous remercie pour cette rencontre. Aussi parce que hors antenne, j'ai parlé de ma fille qui voulait être archéologue et qui veut être archéologue et je viens de trouver un numéro de téléphone parce que inutile de vous dire que quand elle est arrivée avec cette idée, je me suis dit c'est quoi ce métier que tu veux faire archéologue ? Je l'ai trop fait regarder Indiana Jones, je suis désolé. Donc merci pour cette rencontre.
Je vous en prie, c'est tout le plaisir était pour nous. Isabelle, le mot de la fin est pour vous, Isabelle Hofkens.
C'est gentil. Merci Jacqueline, toujours ravie de pouvoir venir discuter à l'antenne. Comme tout le monde, merci pour les rencontres, parce que du coup, on va aller visiter Argenteuil. Et puis, on a sans doute trouvé un nouveau mentor. Donc du coup, tout est bien. Et puis, au plaisir de voir revenir discuter des succès de certaines de nos entreprises, on l'espère.
Avec grand, grand plaisir. Et puis, alors, donc, je rappelle hein, les deux salons dont vous nous avez parlé, le EdTech Days à Lyon le 6 novembre et Ducatech à Paris, à la porte de Versailles, 13, 14 et 15 novembre.
C'est ça.
Merci Isabelle.
Merci Jacqueline.
Merci à chacun pour votre expérience et nous en avoir fait profiter. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour la poursuite de votre parcours. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Vendredi, nouvelle émission. D'ici là, belle journée et bonne semaine.
Avec IDFM Radio pour une soirée Halloween à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains au 18 avenue de Ceinture. De 18h30 jusqu'à 23h, venez danser avec vos plus beaux déguisements en compagnie de votre équipe préférée. Pour l'occasion, DJ, gourmandise, atelier magique, diseuse de bonne aventure, buvette et tant d'autres surprises vous attendent. Un événement pour toute la famille, 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants. Billetterie sur place. Happy Halloween avec IDFM.
jour. Retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Salut à toi, Gravuge pour un petit message et pour une soirée spéciale Halloween le dimanche 3 novembre, toujours de 23h à minuit sur IDFM Radio.
Vous avez des questions d'ordre juridique ? Les avocats du barreau du Val d'Oise y répondent le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Vous rencontrez des difficultés sur votre lieu de travail ? Vous avez des retards dans le paiement de vos salaires ? Vous avez un conflit avec vos collègues de travail ? Vous êtes en litige avec votre caisse de retraite ? Vous êtes victime d'un accident de travail et souhaitez connaître vos droits ? La prochaine émission, Tous les droits, du lundi 4 novembre, sera dédiée aux droits du travail et de la sécurité sociale. Envoyez vos questions à l'adresse tldidfm@gmail.com. Les avocats du Val d'Oise y répondent à l'antenne sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, c'est Roberto Milesi. Je vous réveille en musique de 6h à 6h30, du lundi au dimanche pour un cocktail de musique vitaminé sur IDFM Radio.